Les chenilles de Marcel.
On se déplace avec le chenou, parce que c'est ce qu'on est. Moi, en tant qu'immigrante, puis c'est l'angle sous lequel je préfère l'aborder, parce que c'est au-delà d'un choix, c'est un mode de vie. Tu as beau avoir la nationalité plus tard, par les papiers, mais tu demeures intrinsèquement qui tu es par ton identité culturelle. Et donc, en regardant autour de toi, en regardant les saisons qui changent, en regardant la montagne de neige, en regardant la température qui ne veut pas se réchauffer jusqu'en juin, tu te dis, je suis chez nous, mais je ne suis pas d'ici. Tu ne fais plus partie réellement du cercle. Mm-hmm. Tu es comme en périphérie du cercle, mais tu demeures attaché au fond de toi. Mais ce qui te retient encore, ou ce à quoi tu es attaché, ce n'est pas le tableau d'aujourd'hui, c'est le tableau que tu as laissé en partant. Ouais. C'est comme une photo. La journée où tu quittais, tu as pris une photo et cette photo est restée enregistrée dans ta tête. Mais la vraie vie, c'est une vidéo qui tourne et les scènes changent constamment. Donc ta photo est vite dépassée. Donc quand tu fais 10 ans, ou quand tu fais même un an, tu arrives ici, tu es isolé. Que tu parles français ou pas, tu vas être isolé. Que tu conduises, que tu as ton permis de conduire au début ou pas, tu vas être isolé. C'est un parcours obligatoire. Que tu habites à Montréal ou à la Valtrie, tu vas vivre l'isolement de la première année. Que tu sois latino, africaine ou européenne, en immigrant, tu vas vivre cet isolement. Tu viennes marié ou célibataire, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau chez toi que tu es en train d'apprendre. Et c'est comme une boîte à surprises. À tous les matins, tu apprends quelque chose et tu ne sais même pas ce que tu es en train de découvrir. En te réveillant le matin, c'est une nouvelle boîte, c'est la même boîte que tu ouvres, mais avec un nouveau bonhomme, un jack qui sonne. Ta-da! Aujourd'hui, ça va être la langue. Non, mais non, ça va être la neige que tu vas découvrir ou l'automne. Fait que toute cette découverte-là occupe à 100% ton espace mental. Ce qui fait que ce qui était avant, que tu avais chez toi, dans l'espace physique de ton pays, tu vas le perdre. Tranquillement. Puis en le perdant, tu essaies de toi-même de te rééquilibrer, de voir, mais tout change autour de moi, pourtant je suis la même personne. En réalité, tu n'es plus la même personne. Moi, je ne verrais pas ma vie sans mes enfants. Ça n'aurait même pas été possible. C'est que j'en ai pas. J'en aurais acheté ou cueilli sur un arbre ou peu importe. Là, c'est juste impossible que je ne les ai pas. Donc, malgré ce monde autour de nous qui vire fou, j'ai l'impression, ça vaut quand même la peine, moi, je pense. Pourquoi? Il y a eu des guerres mondiales, puis la Terre a continué. Moi, je mets ça en la providence. Je pense que la vie continuera malgré tout, parce qu'elle n'a pas commencé parce que nous, on a travaillé comme humains. C'est pas de notre fait, la Terre était là, on l'a trouvée là, puis on la laissera là. J'ai confiance en la Providence. Ce qui me fait le plus peur, c'est les humains dans ce chez-nous-là, autour de nous. Je trouve que l'être humain est difficile à comprendre. De plus en plus méchant et égoïste. C'est ça qui me fait peur, de laisser mes enfants dans cette espèce de jungle. Je dis toujours à mes filles, j'ai commencé par « on est noir et fier de l'être ». Puis, depuis qu'elles sont petites, je leur dis souvent ça. Parce que qu'on le veuille ou non, on est dans un monde où il y a une ligne qui est la perfection. Blanc, caucasien, mince, svelte, avec pour une femme en tout cas, des seins de même, puis des fesses rebondies, puis le ventre plat. C'est le modèle qu'on transmet. Pourquoi? D'où il sort? Qui a dit qu'avoir la peau jaune ou les yeux bridés ou les cheveux foncés ou crépus ou les fesses plates, c'est pas bon? Ou c'est plate? Ou c'est pas beau? C'est écrit où? Puis c'est nous, en tant qu'humains, qui le transmettons.
Je l'entends.
Tu le vois.
Je le vois, même dans le regard des gens. Tu le vois.
Mais non. Dans cette espèce de curiosité des gens aussi, surtout quand tu portes une tenue vestimentaire, un pagne ou quelque chose de coloré, tu l'entends, tu le vois tout de suite.
Tu le vois tout de suite.
Ou ta première interaction, première journée au travail, là, c'est le baisse. Ou la première journée d'école des enfants. Ou quand tu ouvres la bouche, même par ton accent, tu le vois que tu n'es pas d'ici. On te le dit. Tu viens d'où, toi? C'est très, très nouveau d'avoir des Latinos dans la Naudière. C'est nouveau d'avoir des Africains. C'est nouveau même de voir des Atikamekw en ville. Tu comprends? Fait que notre espace, notre chez-nous, se colorie. Ça devient une mosaïque. Fait que de nous voir arriver, c'est un peu normal qu'ils se demandent. Toi,
ils sentent là chez nous,
c'est menacé.
Oui, c'est ça. Menacé, en effet.
Toi, tu viens d'où? Puis t'es venu pourquoi? Puis il y a de la curiosité, mais il y a aussi de la crainte. Puis si on parle de religion, on parle des musulmans, puis des femmes voilées, c'est encore pire. Ouais. Porte un voile, c'est une grosse, grosse menace. Ça va venir peut-être influencer telle personne ou menacer notre parité homme-femme ou notre égalité homme-femme. Peut-être pas. Ou peut-être qu'elle va apporter quelque chose de nouveau, tu sais. Laisse la chance au coureur, écoute, approche, rencontre, puis découvre. Puis apporte ton avis à toi. Rien ne dit que, comme je disais tantôt, il n'y a pas une ligne qui est tracée puis qui dit ça c'est la meilleure. Une ligne qui dit, exemple, les catholiques sont meilleurs que les musulmans, eux ils vont aller au paradis puis pas les musulmans, ou les musulmans, eux, ben, c'est mieux parce que les bouddhistes vont... Il n'y en a pas. On fait nos choix puis on s'y conforme, chacun. Puis tant qu'on est bien puis on en vit, c'est l'essentiel. Donc pourquoi essayer de critiquer ou d'attaquer ou de montrer à nos enfants que ben, ce choix-là ou ce modèle-là est différent, donc pas bon. Il n'est pas mauvais ou moins pire, il est juste différent. Ouais. Puis c'est à nous, comme tu disais, comme parents, et à nous autres aussi, comme nouveaux dans la région, d'éduquer. Donc de rentrer en relation avec les autres, de leur laisser l'opportunité d'exprimer leurs craintes pour qu'on puisse se rencontrer réellement. Parce que tant que les craintes restent cachées à l'intérieur, la rencontre ne se fera pas en tant que telle. Ouais. Fait que moi, j'aime ça, répondre aux questions. Tu es là, pourquoi? Puis j'aime ça faire découvrir que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Haïti. Et que tous les Noirs ne sont pas Haïtiens. Que même en Côte d'Ivoire, on peut être sœur sans parler la même langue. Mm-hmm. J'adore ça. Parce que ça permet aux autres de découvrir, puis... La prochaine fois, quand on va se reparler, ben là, on saura sur quelle base partir parce qu'on vient de briser la glace. Oui. Fait que c'est pas évident, mais c'est un travail quotidien si on veut justement pouvoir léguer à nos enfants un chez-nous où ils peuvent s'identifier. Parce que ça, c'est la chose aussi qu'on n'a pas dit depuis. Un endroit, un chez-nous, au-delà de ce qui est à l'intérieur de nous, autour de nous, on doit pouvoir s'identifier à quelque chose, à un visuel, à une affaire qui fait que là, je suis bien. Mais si autour de toi, tu ne peux t'identifier à rien, c'est difficile de te sentir bien. C'est sûr. C'est l'identité, c'est tout ça.
Les Chez-nous de Marcel. Une micro-histoire de devenir chez nous. Co-création Marcel Goran et Iphigénie Marcoux-Fortier. Conception sonore et musique Morgane Asselin-Duguay. Pour découvrir d'autres histoires de chez nous, visitez devenirchezenous.com.